Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour. Je reçois en interview numéro 2 Marc Amzalag, président fondateur Policité. Bonjour Marc.
Bonjour Myriam.
Bon, on a abordé un certain nombre de points lors de l'interview numéro 1 et j'incite les auditeurs à l'écouter avec attention puisque enfin j'ai réussi à avoir un promoteur factuel et optimiste à ce micro parce que, bon, je pense que c'est dû au fait que depuis, on va dire, un mois et demi, deux mois, les ventes ont progressé, tout le monde est un peu plus souriant.
Je le crois. On va dire qu'on a touché le fond et que effectivement certaines dispositions réglementaires sont aujourd'hui encourageantes et les chiffres également.
Super. Donc entre des dispositions réglementaires et peut-être la pierre comme restant quand même refuge, est-ce à dire que dans l'acte de construire il n'y a pas que du négatif, hein?
Écoutez, quand on fait ce métier depuis 30 ans, c'est qu'on a une passion pour l'acte de construire. On a une passion pour répondre aux attentes de nos acquéreurs. Et effectivement, on voit ça avec un certain optimisme. On fait le dos rond lorsque la conjoncture est peu porteuse. Mais aujourd'hui, on peut se dire que on voit le bout du tunnel. Les élections municipales à venir constituant, on va dire, à mon avis, une limite qui verra après une croissance des constructions et des délivrances de permis.
On est d'accord que vous avez des permis qui sont mis en œuvre en temps masqué en ce moment.
Absolument, avec toujours l'indication de ne pas les déposer avant les élections, ce qui me semble être tout à fait légitime au regard des contraintes des élus et de leurs attentes en tant que maire de commune.
Donc, dans cet acte de construire, le promoteur et le bailleur, hein, parce qu'il ne faut pas les oublier tout de même, et c'est des grands constructeurs, hein, surtout là avec les quelques années qui viennent de se passer, où on va dire que c'est eux qui ont construit le plus. Dans cet acte de construire, il y a évidemment un chef d'orchestre, mais il y a des architectes, il y a des bureaux d'études, etc., etc. Tous ceux qui participent, et puis les architectes, ils signent quand même les permis de construire et ils font de la maîtrise d'œuvre. Est-ce que quelque part ce rôle de chef d'orchestre, il est facile à tenir, hein?
Ce rôle de chef d'orchestre est en tout cas plaisant à tenir. C'est un rôle qui réunit de nombreuses compétences et qui nous enrichissent tous. Le rôle de chef d'orchestre est le plus facile à tenir, qu'il y a des relations respectueuses entre chacun. C'est un rôle qui est... La construction est un acte empreint d'une véritable noblesse qui, aujourd'hui, sans avoir, en tout cas, la même attente de la part des riverains ou des administrés, reste aujourd'hui très, très vertueux, à mon sens, sans parler des aspects, évidemment, économiques de l'acte de construire.
Il y a moindre cours ? Parce que justement, on parle des riverains, parce que effectivement, il y a toujours des difficultés, mais justement, comment fait-on pour contourner ces difficultés ?
Non, il n'y a pas forcément moindre cours, mais ils sont traités plus vite. Et c'était une véritable demande des promoteurs.
Ça veut dire quoi, ils sont traités plus vite ? C'est la justice qui met moins de temps à débouter les récalcitrants ?
Effectivement, la justice met moins de temps à débouter les récalcitrants et la légitimité à essayer en justice est quelque chose qui est un peu plus regardé de façon un peu plus étroite et donc ça dissuade quand même ce qu'on appelle des recours crapuleux.
Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. On est dans une situation où, on va dire qu'on va regarder les choses avec optimisme. On a, on va dire, entre 11 et 15% de plus de ventes ces deux derniers mois. Vraisemblablement, les choses vont aller en progressant et en allant beaucoup mieux d'ici aux élections municipales. Donc, du coup, on peut dériver vers des choses un peu singulières qui font que l'ADN d'un promoteur est différent d'un autre, par exemple, je sais pas, de l'art, des salles de sport. Qu'est-ce qui fait qu'on apporte dans un bâtiment de logement quelque chose de plus, le petit truc en plus, hein?
Bah, le petit truc en plus, c'est toujours, comme je le disais, c'est créer du lien social et faire que le résident ait une fierté de sa de son lieu d'habitation.
On prenait c'est-à-dire qu'il est là et pas ailleurs, c'est ça ?
Absolument, et qu'il l'a choisi. On prenait l'exemple de la salle de sport. Effectivement, la première fois que j'ai réalisé une salle de sport dans un bâtiment, les acquéreurs étaient un peu dubitatifs quant à l'impact sur les charges. Il se trouve qu'après avoir été visiter cette salle de sport qui était très utilisée, les acquéreurs m'ont dit « Ah là là, qu'est-ce qu'on est content, on économise les PV, l'essence et l'abonnement à la salle de sport. » Donc en fait, ils échangeaient...
Donc ça veut dire que l'usage était gratuit, mais les machines, il y a quand même un entretien, il y a quand même... c'est pas neutre.
Oui, en tout cas, la Policité avait pris en charge 2 ans de garantie sur les machines, et sauf à ce que les gens maltraitent les machines, elles tiennent tout à fait. Donc l'incidence sur les charges est absolument epsilonesque.
Donc ça veut dire que lorsqu'il y a une salle de sport qui est dans une résidence et que le nouveau propriétaire, justement, si c'est un primo-accédant, bah, il se dit « oulala, plus », on est capable aujourd'hui de lui dire que ce plus va lui coûter rien du tout ?
Va lui coûter quelque chose qui est tout à fait epsilonesque au regard du plaisir que ça va procurer à la résidence. Je rappelle que la seule incidence, c'est de se dire je vais la construire pour le promoteur et parfois je vais payer une charge foncière à un aménageur sur ce type d'équipement.
Oui, mais en même temps, c'est pas pour ça que vous auriez pu construire 2-3 logements de plus. Après, quand on est dans une ZAC, il y a parfois, une fiche de lot avec un certain nombre de logements, avec un prix, etc. Enfin, des contraintes qui font que c'est pas parce qu'on fait une salle de sport qu'on perd des logements.
Bah, il se trouve que le premier exemple était un terrain en secteur diffus et que j'ai pris le parti de faire une salle de sport plutôt qu'un appartement de type T3.
Voilà, donc il y a arrêt de chaussée,
oui, tout à fait.
Oui, mais c'est peut-être mieux pour justement l'espace public, non ?
Ah, mais c'est peut-être beaucoup mieux, mais ça répondait à une profonde conviction, mais une profonde envie.
Alors, les convictions et les envies, elles sont portées donc parfois par le fait de créer une salle de sport dans un lieu, mais elles sont aussi portées par un bâtiment, une œuvre, le fait de décider. D'une manière assez, positive, mais surtout avec beaucoup de conviction, de mettre une œuvre dans une résidence. Comment se fait le choix ? C'est difficile. Il y a tellement d'artistes qui ont besoin d'être mis en valeur. Il y a tellement d'artistes qui ont envie, justement, d'être vus.
Le choix se fait d'abord assez en amont. Le choix se fait au moment de la conception du bâtiment, en se disant « l'œuvre sera là ». D'abord.
D'accord, et donc ça se fait avec l'architecte, rassurez-moi.
Ça se fait avec l'architecte, mais ça se fait aussi en essayant de faire en sorte que l'œuvre soit vue par le maximum de logements au quotidien. Donc il y a une dimension de centralité qui est évidente.
Donc c'est le hall, c'est le jardin.
Le hall ou le jardin, effectivement. Ensuite, le choix de l'artiste correspond à une recherche amont et ça fait l'objet d'un concours. Chaque artiste voit...
C'est-à-dire, il y a une thématique donnée ? Comment ça se passe ?
Il y a un contexte, un cahier des charges avec un contexte et les artistes choisissent leur thématique. Ils choisissent leur thématique au regard du bâtiment, ils choisissent leur thématique parfois au regard du nom des rues, ils choisissent leur thématique au regard de l'histoire de la ville.
Et il y a un ancrage.
Et il y a forcément un ancrage, une contextualisation de l'œuvre. Et il est étonnant de voir que en général, on consulte 3 artistes, de voir que les résultats sont radicalement différents.
Et les médiums sont différents ? C'est-à-dire, vous demandez à ce que ce soit 3 artistes qui font de la peinture, 3 artistes qui font de la sculpture, selon les emplacements ?
Les médiums sont en général différents. Sauf qu'il y a une contrainte qui est quand même la contrainte de la pérennité et de la solidité de l'œuvre.
Comment fait-on pour éviter le vandalisme ou les vols ?
Le vol, en général, l'œuvre est effectivement scellée sur son support, que ce soit au sol ou dans le hall. Mais la pérennité, c'est travailler la pierre, le métal, la céramique, la peinture. Et en fonction de cela, il y a très rarement des dégradations. J'en ai pas connu aujourd'hui. Et ça veut dire que le respect accordé à l'œuvre d'art et à cette démarche est partagé par l'ensemble des résidents et bien évidemment du promoteur. Et c'est, il est vrai que le choix de l'artiste, on y associe généralement les communes.
C'est ça ?
Les communes ou les aménageurs, bien évidemment, ou les intercommunalités. Bien sûr, tout le monde participe. Les résidents ne sont pas associés à cette démarche parce que c'est trop en amont et on ne saurait pas qui solliciter.
Mais qui est-ce qui a le dernier mot ? Le promoteur, c'est un vote.
Il est arrivé que le choix du promoteur ne recoupe pas celui de la commune et c'est à la majorité des voix du jury.
Alors, ces artistes sont mis en valeur donc avec cette œuvre. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, il y a des publications, il y a une espèce de petit catalogue de toutes ces œuvres qui ont été installées dans tous les projets de Policité ?
Alors, il y a évidemment sur le site de Policité quelques références de nos œuvres d'art. Policité, évidemment, est adhérent à la charte Un immeuble, une œuvre, d'ailleurs, où je siège au conseil d'administration du club Un immeuble, une œuvre. Et donc, chaque œuvre est aujourd'hui publiée au travers du club Un immeuble, une œuvre et de la charte Un immeuble, une œuvre.
Donc ça veut dire qu'il y a un site dédié sur lequel les artistes peuvent éventuellement faire des propositions. J'en connais tellement qui aimeraient bien être sollicités.
Oui, les artistes en général sont très demandeurs et très friands de ce type de démarche. De nombreux promoteurs le font et sont effectivement sollicités par les artistes. Je suis à titre personnel très investi dans le milieu de l'art et donc j'ai effectivement la possibilité de désigner des artistes de façon assez fréquente.
Mais c'est compliqué, non ? C'est compliqué de se dire que y a tellement de demandes parce que moi je suis évidemment pour le fait de mettre des œuvres dans des halls d'entrée. Je l'ai fait déjà il y a quelques années, très 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 longtemps, avant même que ce soit dans l'esprit du temps. Mais c'est compliqué de choisir.
C'est compliqué de choisir, mais c'est toujours un moment apaisant de notre métier d'avoir à engager cette démarche avec deux, trois artistes. Et c'est toujours la découverte des propositions des trois artistes, quel que soit celui qui va être choisi, et quelque chose qui est grisant et palpitant. Et donc, effectivement, c'est compliqué, mais chaque artiste, y compris les perdants, sont ravis d'avoir participé à cette démarche et cette aventure, si j'ose dire.
Et puis l'aventure, c'est suite au prochain numéro, c'est-à-dire qu'ils seront peut-être reconnus dans un autre bâtiment.
C'est évident, et de nombreux artistes qui ont été choisis par Policité ont été désignés pour de très belles œuvres dans d'autres bâtiments, voire dans l'espace public également.
Mais c'est tout est positif là. On arrive à la fin de cette interview. Je vous remercie. Merci chers auditeurs et à bientôt sur nos antennes. Merci Marc.
Merci Myriam. Bonne journée.
Conversations urbaines et architecturales, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.